Virginie Langeroc.
Quatre policiers lausannois sont prévenus d'homicide par négligence après le décès d'un homme dans les locaux de la police municipale de Lausanne. Le décès a eu lieu dimanche soir. Le ministère public devra établir si les policiers ont commis ou pas des actes pénalement répréhensibles lors de l'interpellation du suspect, des informations de la RTS. D'après le ministère public, l'homme a été conduit à l'hôpital de police pour y être auditionné. Il a fait un malaise, il est décédé sur place malgré l'intervention des ambulanciers. Une autopsie a été ordonnée et les résultats permettront d'en savoir plus. Le chauffeur qui a foncé sur la foule hier soir dans les rues de Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, conduisait sous l'emprise de drogue. Il a foncé dans la foule rassemblée dans le centre-ville pour célébrer le titre de champion d'Angleterre du FC Liverpool. Les 11 victimes, toujours à l'hôpital, sont toutes dans un état stable et semblent bien se rétablir, selon la police locale. À Gaza, une première distribution de nourriture a pu avoir lieu aujourd'hui dans le sud du territoire palestinien. Un seul point de distribution a pu ouvrir après 3 mois de blocus. Une distribution menée par la Fondation humanitaire de Gaza. Cette ONG soutenue par les États-Unis, enregistrée depuis février à Genève, est la seule à pouvoir donc effectuer cette distribution. Des milliers de Palestiniens ont accouru affamés au point que l'armée israélienne a dû intervenir pour disperser la foule. Plus de 300 écrivains francophones, dont 2 prix Nobel de littérature, Annie Ernaux et Jean-Marie Le Clézio, dénoncent aujourd'hui dans une tribune parue dans la presse française les crimes commis contre la population à Gaza. Ils demandent un cessez-le-feu immédiat. On retrouve parmi les signataires des auteurs récemment lauréats du prix Goncourt, comme Hervé Le Tellier, Jérôme Ferrari, Laurent Godet, Leïla Slimani ou encore Nicolas Mathieu. À Neuchâtel, les membres du Grand Conseil et les 5 conseillers d'État, dont la nouvelle venue Céline Vara, ont prêté serment aujourd'hui lors de l'installation des nouvelles autorités politiques. Le chaudefonnier Émile Blanc a été élu président du Grand Conseil à l'âge de 25 ans. Il est le 2e plus jeune de l'histoire. L'Agence spatiale européenne a ouvert son premier site permanent en Suisse. Il se trouve à Villingen en Argovie. Le rôle des chercheurs qui y travailleront sera d'améliorer la transition entre la science et le secteur privé en soutenant le développement de nouvelles technologies de pointe qui pourront être utiles dans le domaine spatial. Ce site bénéficie du soutien du secrétariat d'État à la formation et à la recherche ainsi que des écoles polytechniques fédérales. Ricardo Moniz n'est plus entraîneur du FC Zurich. Le Néerlandais a été démis de ses fonctions après une saison où il n'a pas donné satisfaction. Demain, le soleil sera bien présent en matinée. L'après-midi sera plus nuageuse avec quelques pluies possibles. Il fera un maximum de 19 degrés jusqu'à 22 en Valais et dans la région genevoise, avec un vent d'ouest modéré l'après-midi sur le plateau. Enfin, ces prochains jours, soleil et chaleur sont prévus avec des températures en hausse. Elles sont comprises entre 25 et jusqu'à 30 degrés. Il y aura samedi des orages possibles. Dimanche sera légèrement plus nuageux avec quelques averses ou orages possibles.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Quand la scolarité obligatoire touche à sa fin, une grande question se pose, et maintenant ? Se projeter dans l'avenir, choisir un métier, un cap important et pas si évident. Le mercredi 28 mai, donnons la parole à celles et ceux qui vivent ou accompagnent ce moment charnière. La Ligne de cœur reçoit des actrices et acteurs de la campagne de sensibilisation. Après l'école, on fait quoi ? Dès 22h sur RTS Première.
Écoute chérie, j'ai pas le temps.
Le grand soir.
Edith Maté. Dis-lui de ne pas regarder par-dessus son épaule la nuit. Ça donne mieux en anglais et surtout quand Fantin Moreno le chante, ce texte. Fantin Moreno, c'est l'homme devant ou derrière Pale Male. Bonsoir Fantin.
Mais bonsoir, quel plaisir.
Vous étiez ce midi sur cette antenne déjà en remplacement de Marie Riley pour les décodeurs. C'est et ça. Là, paf, dans le grand soir, vous avez sorti il y a une dizaine de jours un nouvel EP, III. Ou il. 4 titres qui traitent de révolte, de culpabilité, le tout dans une ambiance tendre avec des grands espaces. Avec vous, on va parler de bus, de chaussettes, mais aussi de musique. Ça, on s'en doutait. Une émission programmée par le fanfaron François Piton et mise en onde par le jupitérien Julien Carrara.
Allons-y, les sportifs!
C'est vous le sportif.
J'adore qu'il ait mis ça, ce petit coquin. Que vous ayez mis ça.
Julien, oui, on est sur la première. Hein. Enfin, oui. Sur RTS première, pardon.
Non, mais je disais vous, parce que peut-être c'était votre initiative de mettre « Salut les sportifs ».
Voilà. Ça, c'est que Julien. C'est
c'est
que
typique Julien, ça.
Je pense que dans cette émission, on a trouvé un marqueur générationnel. Mm-hmm. Vous pourrez appeler tous les sociologues que vous voulez. Très important. Les enfants du début des années 90 ont tous été traumatisés par ça.
C'est horrible, je sais ce que c'est.
Voilà, c'est la grosse voix derrière. C'est...
Est-ce que c'est un morse d'ailleurs? C'est quoi? C'est le morse de Pingu?
Je crois, ouais.
Un éléphant de mer, je sais pas ce que c'est, mais il fait tellement peur. Il a traumatisé toute une génération en effet. Ouais.
Vous, vous dites Pingu?
Ouais, Pingu pour vous?
Moi, c'était plutôt Pingu. Okay. Mais ça, c'est plutôt l'arc jurassien.
Mais c'est pas suisse allemand?
Je sais pas.
Moi, je dirais Pingu, mais... Team Pingu du côté de Julien. Voilà. Bon, moi je dirais qu'on laisse ouvert.
D'accord.
On laisse ouvert pour inclure tout le monde.
Et alors ce morse, il allait dans vos cauchemars à vous? Parce qu'on rappelle, hein, dans l'épisode de Pingu,
ouais.
Il est dans son lit bouge, et puis tout à coup, il se retrouve face à un espèce d'éléphant de mer qui a une grosse moustache, d'où le morse, je pense.
Ouais, c'est ça, j'ai jamais vraiment su, et j'ai pas envie d'en savoir plus. Juste, c'est un animal qui fait beaucoup trop peur. Et effectivement, quand on est petit, il y a des trucs qui aujourd'hui nous paraissent choux. Qui en fait nous font extrêmement peur quand on est petit. Je l'ai revu récemment, il était quand même pas chou. Hein. Il m'a quand même fait un petit stress post-traumatique quand même.
Oui, je comprends tout à fait. Non, ouais. pas sympa.
Oui, vous avez fait peur à vous aussi alors.
Oui, mais moi j'étais plus sorcière de Blanche-Neige.
Ah ouais.
Le morse dans Pingu aussi.
Ok.
Benjamin Biolay, ça va?
Ouais, je connais moins, je connais pas hyper bien.
Il a une moustache aussi.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, je crois.
Même style.
Et surtout, un nouvel album.
Je ne vais jamais voir des photos, désolé, je ne peux pas aller voir ça.
Ouais, c'est juste avant de tomber, c'est une nouvelle chanson qui devrait annoncer un nouvel album pour cet automne. Benjamin Biolay. Voilà.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien. Qu'un grain de beauté, ça valait le coup d'en finir. Y en a même certains que ça ferait rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillé, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez. Voix de départ et voix d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Mes yeux la fait sur mon berceau qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous. J'avais oublié
juste avant de tomber. C'est quoi? C'est pas le pire, c'est pas l'atterrissage, c'est la chute.
C'est l'inverse.
C'est ça. Ouais. Le pire, c'est pas la chute. C'est le... Non, j'en sais rien.
C'est l'atterrissage, oui, c'est ça.
Ouais, c'était donc La Haine, et ce n'est pas un film que vous avez cité dans votre questionnaire, Fanta Moreno.
Non, j'aurais dû.
Je sais pas.
Mais il est très bien. Hein. Il est vraiment marquant. L'autre jour, je suis allé sur YouTube me refaire la scène finale. C'était pas un spoil, vu que j'avais déjà vu le film. Mais ça m'a quand même mis dedans en deux secondes. Et puis bah, maintenant, il y a la comédie musicale que Mathieu Kassovitz est en train de faire tourner. Et je suis curieux de voir ce que ça donne.
Ah,
non, j'ai pas vu justement. Je suis curieux.
Fanta Moreno, vous êtes né le 10 février 1991. Et on connaît pas mal le prénom Fantine, en fait. I dreamed a dream in time gone by. Si on a lu Les Misérables, ou si on a écouté la comédie musicale, où Susan Boyle chantait ça dans Britain's Got Talent 2005,
j'adore,
je pense. Mais il y a très peu de Fantin. En Suisse, selon l'OFS, il y en avait 15 en 2020, mm-hmm. dont vous. Est-ce que vous aimez votre prénom?
Ça a mis du temps, mais oui, maintenant. C'est assez drôle, ça, parce que ma mère, elle m'a appelé Fantin... Et elle m'a mis un deuxième prénom direct. Et très tôt, elle m'a expliqué, quand t'auras 18 ans, comme ça, si t'en as marre de Fantin, tu peux changer. Puis tu peux t'appeler Florian. C'est juste un F plus commun, quoi. Savoir que ma grande sœur s'appelle Fiona et mon grand frère s'appelle Fabien. Donc, au bout de 3 F, elle en a eu marre. Le quatrième, elle l'a appelé Léo. Mais, parce que tout le monde lui disait, il n'y a que des F. Mais c'est vrai que... Ce qui est
ça fait Fléo, sinon.
Ouais, non, ça, non, pas terrible, effectivement, bonne remarque. Mais Fantin, c'est vrai que en fait, il y avait ce truc de, il faut toujours les plaire encore aujourd'hui, les gens comprennent Quentin, faut les plaire. Et puis, par contre, ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai appris à aimer, c'est que suivant la langue, en fait, ça change. Ma grand-mère espagnole m'appelait Fantine. Quand je vais dans des pays anglophones, c'est Fantin. Donc un peu à la mode de Quentin Tarantino.
Vous et levez puis, les index quand vous dites ça.
Ouais, je fais un peu le gars.
Américain.
Je me la pète un petit peu. Ça me donne un côté international. Non, mais en fait, ouais, En fait, les gens s'en souviennent aussi. Ça, c'est cool. Et en fait, au point que, ça m'est arrivé encore la semaine passée. Je crois la troisième personne qui me dit qu'il voulait appeler son enfant Fantin si c'était un garçon, parce qu'ils ont aimé le prénom. Donc en fait, ma mère, et il y en a d'autres qui ont appelé leur enfant qui pour le coup était un garçon, s'appelle Fantin. Et ça, c'est grâce à ma mère, en fait, qui ne le sait pas. Du coup, je lui rapporte ce genre de nouvelles.
Ça, c'est la première partie du prénom. Et ça, c'est le nom de famille. Moreno, ça fait forcément penser à Dario Moreno, le turco-mexicain chanteur d'opérette. Et ça, c'était une pub pour de l'huile d'olive, début
ah ouais
des années 2000. Mais Moreno, c'est aussi ça.
Mon Dieu, je suis une old style.
La voix grave de Muriel Moreno, qui avait choisi ce nom exprès, puisque en réalité, elle s'appelait Muriel Laporte.
Vous voulez savoir qui s'appelle Moreno dans les célébrités françaises?
Absolument.
Jean Reno. Il s'appelle Juan Moreno. Eh ouais. Bah lui, il a fait l'inverse, il a fui Moreno pour devenir plus français.
Donc, quand on s'appelle Laporte, j'imagine, ça doit être dur en plus sur scène.
Oui, ça c'est vrai.
Tout le monde doit vous dire de la fermer, c'est pas très drôle. Qu'est-ce qui est venu avant chez vous? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est cette musique?
Ah oh, oui.
Les
Lausannois. Ça, c'est l'hymne genevois, le Sekeleno, qu'on chante traditionnellement à l'escalade, mais qu'on chante aussi dans le public du Servette FC, du Genève Servette HC. C'est vrai que je suis fan, c'est vrai que je suis speaker aussi pour nos clubs sportifs genevois. Ça fait plaisir de l'entendre. Et en effet, c'est la première fois que je le réalise, mais c'est venu la même année, en fait, parce que j'avais 8 ans quand j'ai été voir mon premier match du Servette FC au stade des Charmilles. Et j'avais 8 ans quand j'ai reçu ma première batterie. Donc c'était en 1999.
Et puis vous avez fait du tambour?
J'ai fait du tambour, ouais.
Chez les cadets. C'est quoi les cadets?
Les cadets de Genève, c'était une école de musique, une fanfare en fait. Donc on faisait des défilés, pour les promotions, des trucs comme ça. Mais aussi des trucs assez sérieux, des concours de fanfare, parfois des concours de tambour militaire. On est allé jusqu'au tatou. Vous savez le tatou de Bâle ou le tatou d'Édimbourg, il y en a un à Halifax.
Vous êtes allé à Halifax?
Ouais, pendant 3 semaines, quand j'avais 13 ans, j'ai joué du tambour tous les soirs devant 6000 personnes, une patinoire pleine, et en découvrant des shows. Il y avait des fanfares de partout autour du monde qui faisaient des trucs complètement fous. Et on avait bossé dans les halles de Palexpo pour faire une, pour faire une chorégraphie complètement dingue. C'est un truc que je pense qu'on fait une fois tous les 10 ans dans les fanfares suisses d'aller jusque là-bas. Mais ouais, j'avais fait ça quand j'avais 13 ans. Donc c'était sérieux le tambour, ça rigolait pas. Et surtout, ça donne une très bonne base pour la batterie.
Et quel genre d'uniforme au Cadet de Genève ?
Ah, les photos sont terribles. C'est tout bleu. C'est tout bleu et c'est très classe avec des trucs tressés qui pendent à droite à gauche et puis une petite casquette qui fait très navy comme ça.
Et donc à Halifax, la classe.
Voilà, là ça allait très bien avec tous les bateaux.
Hier, c'était Maximilien Anorn qui était derrière ce micro-là.
Mais non, c'est un copain.
Mais oui, bah aussi un batteur. Et il nous disait que c'était l'énergie qui l'avait guidé vers cet instrument. C'est pas vraiment un instrument pour les calmes.
Non, je pense pas. On peut y jouer des trucs calmes tout à fait, mais moi, ce qui m'a mené là-bas, je pense, c'est aussi l'énergie, mais c'est que je tapais partout. Je tapais partout. J'ai encore un souvenir très vif de moi au comptoir, je crois que c'était une boulangerie ou un truc comme ça. Comptoir en verre, vous voyez le genre. Et moi, je tapais dessus, ça faisait un boucan, mais horrible. Mais je tapais déjà en rythme. Hein. Je tapais déjà en rythme, mais ma mère m'a dit, c'est pas possible, en fait. Quand on rentre, on te met au tambour. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, très vite, j'ai voulu faire du rock et donc faire de la batterie. Mais j'ai quand même continué ici dans le tambour.
C'est un instrument qui défoule, forcément ?
Oui, qui défoule. Et j'aurais pas pu le faire si on avait un appartement. Heureusement, j'ai eu la chance de grandir dans une maison et d'avoir une cave. Donc, je faisais tout le bruit du monde. Je me rappelle mon petit frère qui mettait des pamirs et qui venait à côté m'écouter en faisant du air batterie. C'était trop chou. Et puis, ouais, j'ai appris en mettant de la musique sur une sono. Personne m'a rien appris au début. C'était un peu à l'arrache. Et puis, d'ailleurs, mes parents ont mis la batterie en droitier, comme elle est dans le catalogue, alors que je suis gaucher. Donc, en fait, j'ai appris à jouer d'une manière assez étrange. C'est-à-dire que mes bras sont pas croisés comme les batteurs habituels. Ils sont décroisés.
Ah, donc voilà. C'est plus simple, plus d'amplitude.
Il y a certains gestes qui sont plus simples, effectivement. Certains batteurs m'ont dit que j'avais de la chance d'avoir appris comme ça. Il y a d'autres difficultés un peu, mais surtout, ça m'a permis de pas être un batteur complètement gaucher, parce que là, ça voudrait dire qu'à chaque fois, je dois installer ma batterie de manière miroir, en fait. Et ça, quand on va jammer avec d'autres gens, c'est un peu compliqué.
Trop compliqué.
Donc, je suis bien content de cette erreur malencontreuse de mes parents. Et puis, bien sûr que ça m'a défoulé. Je sortais de là, c'était comme un match de foot.
Votre adolescence est donc rythmée par un certain Travis Barker.
Ça, sur RTS Première, c'est pas tous les jours. Hein.
Bah écoutez, il faut dans le grand soir, c'est important. Blink, moi je disais 182.
Ouais, moi aussi. Ah, moi okay. aussi. Ouais, on est ensemble là-dessus.
Pourquoi eux ? Ce trio ?
Je sais pas pourquoi. En fait, ce batteur, il a quand même. Il faut s'imaginer un mec tatoué à torse-poil avec une crête iroquoise.
Aujourd'hui mari de Kourtney Kardashian.
Absolument, c'est vrai. Et il a, ouais, il a, je dois avoir 45 ans, je pense, 50 berges presque. Et en fait, il a inspiré toute une génération de batteurs de mon âge parce qu'il a mis un peu la batterie au centre du show.
Qu'il était surélevé.
Ouais, il est surélevé, il y avait des pyrotechniques, enfin il y avait un truc où en fait il était très spectaculaire dans sa manière de faire aussi, très dans les gestuels exagérés et tout. Beaucoup de gens ont dit d'ailleurs à un moment qu'en fait c'était un mec qui était tout dans le show et pas dans la technique. Et en fait maintenant, avec tout ce qu'il a fait depuis et dans plein de styles de musique différents, il y a un énorme respect sur lui et c'est un batteur marquant clairement de la scène pop, punk et rap en même temps quoi. Donc, moi je voulais être lui quoi. Donc, je connaissais tous les albums par cœur. J'écoutais beaucoup de musique des États-Unis via des potes qui avaient accès parfois à des trucs. J'avais un pote américain qui avait accès à de la musique avant nous en Suisse. Donc, il m'envoyait toutes les dernières sorties punk et j'étais fou quoi.
Oh là là.
Notamment celle de Blink 182.
J'étais étonné que vous ayez pas cité eux.
Ah.
Puisque vous avez eu un groupe qui s'appelait Deep Kick.
Ouais.
Et on vous a beaucoup comparé aux Red Hot Chili Peppers.
Absolument. Alors ça, c'était un peu plus tard. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Ça, c'est quand j'avais 17 ans et que j'ai rencontré des musiciens à Neuchâtel qui sont devenus ce groupe Deep Kick, effectivement, qui est le nom d'un morceau des Red Hot. Et je connaissais les Red Hot que les chansons très connues, vous savez, les Californication, trucs comme ça. Et en fait, j'ai rencontré un bassiste à Neuchâtel qui s'appelle David Caraccio, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Je suis parrain de sa fille, je lui fais un coucou d'ailleurs. Lui était fou des albums précédents, ce qu'on entend là, Blood Sugar Sex Magik, les moments où c'était moins pop, plus funk, plus punk, plus drogué aussi malheureusement. Nous on n'a pas pris ce côté-là, mais disons le groove sauvage nous a pris comme ça et ça nous a liés. Je me rappelle très bien, j'étais dans cette école de musique BBM 74 que je salue aussi à Neuchâtel, où en fait j'étais avec un prof privé. Lui avait son prof privé, David, je le connaissais pas du tout, et les deux profs ont dit j'ai un gars là, pour ton élève, là, il faut qu'ils jouent ensemble. Mmh. Et en fait, très vite, on a quitté l'école et on a créé notre groupe parce qu'effectivement, ça a matché, quoi. Et on jouait effectivement ce genre de musique. Parfois, on copiait un peu trop, mais après, on a fini par trouver notre propre son. Ouais.
Vous êtes un batteur, mais aussi une voix. D'ailleurs, vous étiez déjà à 11h30 sur cette antenne pour les décodeurs à Plan-les-Ouates cette semaine.
Oui, absolument.
Pour le Centre Social Protestant. Et vous officiez à Couleur 3, de l'autre côté du couloir, depuis plus de 10 ans. Voici un extrait de L'incroyable été de Fantin.
Oula.
Couleur 3.
Hey, salut cette équipe. Je sais pas si vous avez déjà eu la haine envers cette personne qui parle trop fort ou qui rigole dans la bibliothèque pendant vos révisions et que vous vous essayez tant bien que mal de laisser le nez dans vos feuilles mais que ça marche pas. Eh ben, je vais pousser le truc un peu plus loin. Je vais aller dans une bibliothèque. On m'a conseillé la bibliothèque universitaire de Lausanne, ici à la Ripon, dont je suis en train de gravir les escaliers. Et voilà, on entre dans la bibliothèque. On va essayer de chercher des endroits un petit peu plus silencieux. Dans le hall d'entrée, ça part encore pas mal. Ah, il y a un petit panneau avec un singe qui joue des cymbales, qui écrit « Silence ». Ici, on réfléchit. Je vais les faire réfléchir les gens sur le silence.
Ta gueule, Fantin !
Le silence, c'est le sanctuaire de la prudence. C'est la condition souveraine du savoir. Mais c'est aussi le plus corrosif des acides. Ouais. En anglais en plus. Alright, thanks.
Thanks.
C'est vraiment un gars qui m'a dit shut up. Il en pouvait plus. C'était août, les gens étaient en rattrapage, ils révisaient. C'était horrible. Je referais plus jamais ça.
Et la radio alors pour vous?
Bah la radio, contrairement à la musique et la batterie, c'était pas mon rêve de gosse. Par contre, très vite, j'ai senti que mettre en lien les gens et créer du dialogue, c'était une passion chez moi dans la vie. Je suis un peu animateur radio aussi quand je suis en discussion avec mes potes. D'ailleurs, des fois, ils se foutent de ma gueule parce que je suis un petit peu... Ok, Bruno, on a entendu ton point de vue, mais j'aimerais peut-être entendre aussi... Tu vois, je suis toujours un petit peu en train de faire le médiateur comme ça, des formations professionnelles. Mais oui, je savais que je voulais bosser dans les médias. Je me suis dit, c'est le seul truc qui a l'air de me parler aussi parce que sport, journaliste sportif, etc. J'ai dit, voilà, là, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai fait ce bachelor à Neuchâtel en sciences d'information et de la communication. Mais je savais pas que ça allait être le média radio. Je savais pas que ça allait être la parole. Moi, j'avais postulé aussi dans des journaux, dans des médias écrits et tout. Et à la fin de mon bachelor, en fait, j'étais pris à la RTS et je suis plus jamais parti. Et en fait, je me suis rendu compte que, ah bah oui, en fait, j'étais déjà derrière un micro pour la musique. En fait, j'aime parler au public de la même manière sur scène que, en fait, à l'antenne. Et en fait, maintenant, ça me paraît naturel, mais avant d'en faire, je savais pas que c'était là que je devais aller.
Bon, alors après plus de 10 ans d'expérience, ouais. Fantin, comment vous annoncez ce titre? 38 secondes d'intro.
Oh! Ça, j'espère que vous allez le passer plus souvent sur les ondes d'RTS Première. John Mayer Trio. L'américain John Mayer, un des meilleurs guitaristes de sa génération, voire du monde, je me permets de le dire. Il est en trio ici avec Pino Palladino à la basse, bassiste notamment des Who, c'est une légende. Et puis il y a Steve Jordan à la batterie, regardez-moi comme ça groove. Seulement 3 instruments, il n'y a pas besoin de grand-chose. Batterie, basse, guitare, c'est terminé. Le titre s'appelle Vultures et c'est une version live en plus, celle que je préfère. Oh là là, live au Nokia Theater.
What it takes to take me
cause I offer my surrender. Cause power is made by pure manipulation. We keep on rolling to protect our situation. Now I'm bound to the wall. I wanted one of all. I walk through the fire. If this is what it takes to take me even higher, then I can prove like I do when the world keeps testing me.
Batterie, Fantin Moreno, alias Pale Mail. Vous commencez donc la batterie et vous fondez un groupe avec David Caraccio et Philo.
Oui, Philo.
Dont on ne connaîtra jamais le nom de famille.
C'est son nom de famille, Philo, mais ça s'écrit différemment. Il s'appelle Damien Philo.
Ah, merci.
Et je le salue.
Et vous faites de belles tournées, notamment en Grèce.
Oui.
Jolie notoriété, ouais. Avec Deep Kick, donc.
Ouais, ça n'avait aucun sens de se retrouver. Je suis désolé, mais le solo derrière. Parce que là, ça part en jam, hein. Ça part en jam, là, il improvise, John Mayer. C'est vraiment grave quand on peut chanter les solos de guitare. Non, c'est grave.
Je crois que François Piton a vraiment visé juste.
C'est lui qui a bossé sur la programmation. Bravo, François.
Bravo,
merci pour ce moment. Et donc, pour revenir, pardon, sur la Grèce avec mon groupe Deep Kick, oui, c'était la première fois qu'on est allé, 2009, j'avais 18 ans. Et puis, ça n'avait aucun sens, en fait. Ils nous ont repérés par MySpace, à l'époque. Et on avait un fan grec. On avait plein de fans sur Internet parce que David Caraccio, il faut savoir que c'était un des précurseurs des reprises de basse, en fait, sur YouTube. Il faisait ça un peu avant tout le monde, il faisait le million de vues avant tout le monde. Et du coup, on avait toute une fanbase de partout autour du monde. Très dur à réunir dans une salle quand on fait un concert. Mais par contre, on envoyait des disques en Corée, en Australie, et notamment en Grèce, où il y avait un fan qui a parlé à ce festival qui s'appelait School Wave Festival. Et il a dit à ce groupe de Suisses, ils sont complètement fous, faut les inviter. Parce que c'est un festival basé sur la jeunesse. Donc, ils avaient 2-3 têtes d'affiche par soir. Mais le reste de la programmation, c'était, on prend des gens qui sont encore à l'école. Et on les met sur scène en conditions professionnelles. Ça en dit long, ça. On pourra revenir sur pourquoi il faut faire ça en Suisse aussi. Mais bref, la qualité était quand même là. Ils faisaient en sorte qu'au tout début de la journée, voilà, il y avait ceux qui étaient moins à l'aise. Mais nous, on était juste avant la grosse tête d'affiche grecque. Donc on était une des têtes d'affiche. Il y avait 2-3 groupes étrangers par soir.
Donc ceux à l'aise.
Et ouais, et ils nous ont mis meilleur slot de la soirée devant 5000 personnes dans une arène. C'était n'importe quoi. Et on est arrivé et c'était l'émeute. Et en fait, du coup, ils nous ont invités en 2010, en 2011. On est revenu 3 années de suite et c'était la folie furieuse. Vraiment.
Ça m'étonne pas. En plus, la particularité de Deep Kick, c'est que, comme dans les Eagles ou dans Genesis version Phil Collins, le batteur chante. Ça demande un joli cardio, j'imagine.
Ouais. Et ça, en fait, c'est deux activités qui sont complètement contradictoires en termes corporels. C'est-à-dire que je suis censé, quand je chante, être très relâché, sortir le ventre, etc., ne pas contracter, sauf qu'à la batterie, qu'est-ce qu'on fait? On contracte tout pour que les quatre membres soient en activité. Donc, en fait, je me pétais souvent les cordes vocales.
Oui, on pousse, en fait.
Ouais, en fait, surtout quand on fait du rock, en fait, c'était tellement fort qu'il fallait... Au début, je criais plus que je chantais. Après, j'ai appris à chanter au fur et à mesure des années. Mais oui, c'était... Quand tu sors du concert, t'es cuit. Mais par contre, c'était un plaisir. Et puis, c'était... En fait... Beaucoup de gens me demandaient quand je sortais de scène comment tu fais pour faire les deux, et en fait c'est simplement que la batterie, je la réfléchissais pas, elle était automatique, je me concentrais que sur le chant. La batterie, elle était acquise avec le bassiste, on n'avait pas besoin de se parler, on se comprenait
cette
parfaitement.
C'est une symbiose.
Ouais, vraiment. Et un peu proche de ce que Chad Smith et Flea ont, la section rythmique des Red Hot Chili Peppers, on s'est pas mal inspiré d'eux. Mais ouais, ça tourne comme ça, la batterie, plus besoin de réfléchir, et je me focussais sur le chant. Et puis ça passait comme ça. Alors, tout n'est pas glorieux dans les enregistrements d'antan, mais, mais par contre, en live, c'était chouette, ça c'est clair. Parce que les deux devant, là, qui chantaient pas, ben, ils sautaient partout, et du coup, c'était assez cool. L'avoir.
Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une voix?
Waouh, bonne question. Je pense que c'est après tout ça. C'est après mon groupe de rock. Je pense que c'est en fin 2017, début 2018, quand j'ai commencé à écrire mes morceaux, guitare-voix.
Avec la radio aussi un peu ? Vous avez une voix radio ?
Alors moi, j'ai jamais trouvé, par exemple. On m'a parfois dit ça, mais...
Une signature, en tout cas, vocale.
Bah, je savais pas, moi j'ai pas l'impression, mais je l'entends pas comme vous aussi, hein, c'est ça qui est piégeux. Mais j'ai d'autres collègues qui ont des voix rocailleuses ou qui ont des rires plus reconnaissables que moi. Moi j'ai l'impression d'avoir la voix d'un jeune de mon âge, quoi. Simplement, j'ai l'impression que les gens reconnaissent ma voix parce qu'ils ont l'habitude de l'entendre, mais je trouve pas qu'elle a un ton qui détonne tellement. Ça, c'est pas à moi d'en juger parce que j'ai pas le même regard que vous sur ma voix. Mais par contre, en termes de voix qui transmet des émotions, c'est quand j'ai lancé mon projet Pale Mail que là j'ai réalisé en fait que c'est la première fois que j'ai eu l'impression de vraiment bien chanter, en fait. Je devrais pas dire ça à mes collègues du groupe Deep Kick avec qui on a sorti plein d'albums, mais c'est la première fois où, en fait, j'ai pas pris de cours de chant, où j'ai réalisé qu'en fait, je transmettais toute une gamme d'émotions hyper différentes. Et du coup, apprendre à chanter en forçant moins, aller plus dans les graves, après aller beaucoup plus dans les très aigus, et puis se laisser être vulnérable, en fait. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est 2018 où je réalise ça.
Vous dites, j'ai trouvé une interview dans Arc Info en 2019 où vous dites que David Caraccio, donc, ouais, est un des types les plus timides que vous connaissiez.
Oui.
Mais dès qu'il a une basse, c'est plus du tout le même. Est-ce que c'est pareil pour vous? Dès que vous avez une guitare, vous êtes plus la même personne que derrière une batterie.
Alors, je suis pas le même derrière une batterie, ça c'est évident. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un peu deux facettes. La facette du rigolo, fêtard, hyper rassembleur, qui parle fort, etc. Et puis d'un coup, les très à fleur de peau, vulnérables, etc. Qui sont pas forcément contradictoires, je pense. On a tendance à trop vouloir dire « lui, il est comme ça ». Et moi, je pense que j'ai les deux. Ça dépend vachement des moments. Et puis, quand j'ai une guitare dans la main, j'ai pas envie de chanter Santiano et des chansons qui donnent envie de faire la ronde autour du feu. Effectivement, c'est tout de suite, je tombe dans un truc. Allez, là, ça rigole plus. Là, on va chercher profond au fond de nous. Et puis, on va tirer l'alarme, quoi.
Et Deep Kick. Voilà. Ouais.
Non, là, je peux pas rebondir. Là, faut assumer maintenant. Ah oui!
Merci, Julien Carrera.
Ça devient couleur 3 ici.
Complètement. Ça, c'est la touche
c'est
Carrera.
Ouais.
Pour revenir à Deep Kick, donc, qu'est-ce que ça vous a appris?
Waouh, ça m'a appris tellement de choses à comment communiquer dans un groupe, parce qu'on faisait très mal à l'époque. La bienveillance, ça m'a appris qu'il faut profiter des moments quand ils passent, parce qu'en fait, quand on est revenu de ces concerts en Grèce, quand on a fait Rocose, quand on a fait Caprice, quand on a fait Festinoche, tous ces trucs-là, bah moi j'ai vraiment eu le sentiment à 21 ans que ma carrière était derrière moi, que le mieux était fait. En fait, il se trouve que c'était pas très faux. Non, après c'est pas vrai, j'ai vécu des tournées qui étaient hyper cool j'ai fait des concerts dans 12 pays et tout, mais c'était plus des concerts intimistes à 100 personnes, trucs comme ça, alors que là j'avais joué devant 5000 personnes en Grèce. Enfin, en fait, j'ai mon rêve de rockstar de quand j'étais gamin, bah à 21 ans, je l'avais fait quelque part. Et en fait, ça m'a vraiment appris que profite de chaque concert, et j'ai vraiment profité de chaque concert et de la relation créée avec les gens de ce groupe. Et puis maintenant, j'ai pas de regrets, en fait. J'ai l'impression de l'avoir fait plutôt que prévu, mais de l'avoir fait, et maintenant je peux avancer avec plus de conscience, je dirais, ouais.
Sérénité.
Ouais, je pense.
On va écouter un bon vieux Deep Kick de l'époque où vous portiez des petits gilets en satin jaune dans l'émission Plein de Postes sur Couleur 3 et que Duja vous introduisait. Attention, il paraît qu'il faut que le public soit averti. Alors voilà, j'avertis le public, c'est Duja qui présente, forcément, ça ressemble à ça.
Et slap, les Neuchâtelois de Deep Kick renouent avec la formule qui fit le succès des Red Hot Chili Peppers à la fin des années 80. Rhythmique funky en fusion, grosse basse chaloupée et percussions nerveuses. Manque plus qu'une chaussette sur la bite et l'illusion sera parfaite.
J'ai averti.
Il commence à faire très froid, les gars, et c'est pas dommage pour la chaussette puisqu'elle sent déjà les pieds.
Il est fou.
Il est fou.
Ils sont fous, les collègues.
Aussi Merry Go Round. Là, vous chantez, je crois.
Ouais. Pas ma plus fière performance, mais c'est important de repasser par le passé. Donc là, je fais batterie et chant. Je crois que ça date de 2012 ou 2014, je suis même plus sûr. Mais ouais, ça a plus de 10 ans, ça. Ouais.
François Piton encore, c'est de sa faute. Here I am on the road again. Am I digging my own way? I ain't afraid of no ghost. In time, when you think about it, behind all the illusions, I always keep my mind straight. Gave up hope. I hear no echoes.
Rain is creating a pattern of disappointment. I call it disillusion. Right now, the only thing that matters is get to know the right trail to the final picture.
Pas un fade out.
C'est plus subtil que ça.
Complètement plus
subtil.
C'est
une extro de basse. On mettait de la basse partout. Alors.
Et puis vous êtes là avec le petit shaker derrière.
Petit shaker derrière, exactement.
Vous dites, c'est dans ma musique que je suis le plus honnête. C'est ma partie sombre qui peut s'exprimer. C'est dans une interview à Migros Magazine en 2021. Est-ce qu'elle pouvait s'exprimer dans Deep Kick, justement, cette partie sombre?
Je pense que c'est les premières fois où j'ai commencé à le faire, ouais. Il y a certains morceaux, je sais que sur le même album que celle-ci, il y a le morceau qui ouvre l'album, parle de ma relation avec mon père, et le dernier morceau parle aussi de la relation, de ma relation avec mon père. Je n'ai jamais trop parlé de ça d'ailleurs, mais c'est un morceau où je parle de comment il s'est comporté pendant le divorce avec ma mère, des trucs comme ça et tout. Et ça, j'avais pas tellement parlé de ça, quoi.
Et pourtant, vous le chantiez devant 5000 personnes en Grèce.
Oui, c'est ça, mais aussi... Voilà, c'est ça, mais je me dis, tous les textes sont censés être interprétables de plein de manières. J'aime bien laisser ouvert. Et puis, c'est dans une autre langue aussi, ce qui permet un petit peu de... Ben, y a un côté triche un peu, on n'est pas 100% en train de dire les choses à notre famille, quoi, parce qu'on le dit de manière musicale et avec des rin, rin, rin. D'ailleurs, mon accent était pas aussi bien que pas, non, il y a 12 ans, mais oui, je pense qu'il y avait un peu de... Ça, j'ai jamais eu peur, par contre. J'ai toujours trouvé que c'était mon postulat premier, c'est que quand je vais sur scène, et c'est la même chose quand je suis à l'antenne en radio, je vais être moi-même. Parce que quand même, on va pas se mentir, en radio, il y a souvent ce truc de... Tu parles à quelqu'un, comme ça, t'es avec l'invité, tu parles normalement. Puis dès que l'antenne commence, et nous sommes ensemble, et voilà. Et en fait, tu casses une sorte d'authenticité. Et moi, j'ai toujours voulu éviter ça. Et sur scène, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur scène, j'arrive, je dis « Bonjour, je suis tout nu, voici mes émotions. » Je reste habillé, bien évidemment. Mais au sens figuré, c'est ça. Et sinon, ça n'a pas de sens pour moi.
Ça me fait revenir sur votre voix, justement. Mm-hmm. C'est la même.
Vous dites « entre ».
Entre celle qui parle avec le casque de radio, sans le casque de radio, celle qui parle dans un micro, celle qui parle sans micro, celle qui chante.
J'essaie de plus en plus que, parce que cette phrase que vous dites, ce serait bien quand même de réussir à parler de ces trucs-là hors chanson.
Ouais.
Donc c'est quand même... Là, je suis en thérapie depuis 4 ans, et oui, c'est le but, c'est de pouvoir en parler. D'ailleurs, ça fait 4 ans que j'ai fait l'interview, donc ça a du sens, mais l'idée, c'est de réussir à normaliser le fait de parler de tout ça, pas que en chanson. Donc oui, j'essaie de le faire beaucoup plus, et le fait de dire qu'on voit un psy à la radio dans nos interviews, c'est aussi une manière de le faire, de normaliser le truc. Bah, ce serait... Ouais, ça fait un moment quand même, hein, j'invente pas la poudre, mais disons, pour moi, en tout cas, c'est des trucs que je faisais pas forcément avant et que je trouve cool de normaliser, même avec mes potes mecs surtout, on parle pas toujours de ça, et en fait faut normaliser ce truc là. Et donc oui, moi je tends vers avoir la même voix partout, j'aimerais bien. Ouais.
Et alors, est-ce qu'elle est écoutée? Enfin, par exemple, votre papa, il a écouté ses chansons sur lui?
Mon père ne sait pas. Il y a peut-être le... Voilà, papa, si tu m'écoutes, tu le sauras. Mais il sera pas étonné. Il sait que je parle de plein de choses dans mes chansons. Il a déjà pleuré à mes concerts. Donc, il a aussi eu sa part de vulnérabilité qu'il a apprise à adopter. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas, lui non plus, en termes d'émotion. Mais il a fini par faire son boulot aussi, de son côté. Et puis, on a pu parler de plein de choses. Donc, avec ma mère, c'est la même chose. Avec mes frères et sœurs, c'est la même chose. On a débriefé plein de trucs. Parfois, grâce à des morceaux à moi, c'est assez cool, quelque part. Mais oui, je pense qu'ils savent. Ils savent que tout ça fait partie de moi et de mon art.
Il faut que ça passe par la musique pour que ça se concrétise.
Je pense qu'à un moment donné, c'était le cas. Quand j'ai lancé ce projet Pale-Mail, ce projet solo, je pense que c'était le cas. Et puis maintenant, je pense pas forcément. Et d'ailleurs, mes chansons ne parlent plus seulement de ça, de mes émotions. Justement parce que quelque part, peut-être je parle de mes émotions avec eux et que donc j'ai la place pour traiter d'autres trucs qui me tiennent à cœur dans les chansons. Ouais.
Puis la thérapie.
Oui, alors la thérapie, il y a certaines phrases littéralement que mon psy m'a dit, que j'ai prises, traduites en anglais, mises dans l'album, et ça a commencé le texte de la chanson, quoi. Genre, j'avais cette phrase, à partir de là, qu'est-ce que je construis? Donc ouais, non, c'est hyper utile.
Vous avez choisi Pale Male comme nom d'artiste,
ouais.
Ça veut littéralement dire l'homme pâle.
Notre histoire n'aurait jamais pu.
Non.
Il a un peu des casseroles aux fesses, l'homme pâle.
Justement, je suis un peu gêné quand on me dit « mais c'est l'homme pâle de
Genève !»
Ouais, puis en fait, je suis là. Déjà, j'écoute très peu de rap. J'écoute pas de rap français. Il y a plein de trucs qui sont super, mais l'homme pâle, à partir du moment où j'ai vu de quoi il était accusé, j'étais là « mais toi, je vais jamais écouter un de tes morceaux ». Et puis, par contre, simplement, les gens qui ont vu mon visage savent que mon visage est pâle et que je trouve très drôle de m'appeler Moreno, qui veut dire brun bronzé, et d'être blanc comme un cul d'anglais, si j'ose. Donc en fait, il y avait déjà... Si, je me suis réveillé, je me suis dit « ok, le projet, il est hyper intimiste, c'est toi à 100%, comment tu veux l'appeler ?» Ben, je regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois une face pâle. Bah ouais, déjà Pale-Mail, et après je me dis « ok, Pale-Mail, pêle-mêle, parce que je mets quoi dans ces chansons? Je mets plein d'émotions différentes. Des fois, elles sont fâchées. Des fois, elles sont positives. Des fois, elles sont déprimées. Ça part dans tous les sens. Des fois, c'est du rock. Des fois, c'est de la folk. Donc, je dis, ah, voilà, on met tout pêle-mêle. Et en fait, voilà, là, j'ai trouvé un truc. Et puis, j'aimais bien aussi l'idée, à la manière d'un Bon Iver, par exemple, que pêle-mêle ne soit pas le nom d'une personne ni d'un groupe. Ça reste flou. C'est une idée. Ça peut être un concert à 1, à 2, à 5, à plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec les formats de concerts que j'ai fait. C'est jamais vraiment la même chose. J'aime bien l'idée que ça puisse morph, enfin bouger, évoluer dans quelque chose de différent en termes de nombre. Donc, il y a un petit mystère là derrière. Voilà.
C'est aussi un nom d'oiseau, non?
Oui.
Une buse.
Une buse à Central Park, non? C'est pas un truc.
Ouais, une star à Central Park, il paraît. Et si une buse, c'est un peu un petit aigle? Genève Servette.
Oh, j'ai jamais fait ce lien.
Franchement.
Merci Edith, voilà.
Écoutez, le grand soir, c'est aussi une psychanalyse.
C'est ça.
Pale Male donc sort un EP III. Il s'écrit en chiffres romains. On peut le lire de plusieurs manières. I aussi, comme je.
Ouais.
Là où vous faites, en fait, tous les instruments, c'est vous qui les jouez.
C'est vrai. C'est pas comme ça que j'ai pensé, mais ouais.
Et aussi il.
Ouais,
comme le mal.
Oui, on m'en a parlé. Un de nos collègues de RJB, Steve Gazer, qu'on salue, m'en a parlé aussi. Il pensait que c'était ça le titre. Moi, je l'ai pensé trois en chiffres romains, parce que c'est le troisième disque que je sors, tout simplement, et que je voulais que aucun message, aucun titre d'un des quatre morceaux ne prenne le pas sur les autres. Donc, je voulais que ce soit assez neutre. Et puis, c'était stylisé aussi joliment comme ça. Mais lui m'a parlé du il, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de mots M-A-U-X dans ma musique, et c'était pas le but. Mais en fait, je trouve que pourquoi pas. Voilà. Alors moi, je dis 3, mais si vous voulez dire il, je vous le laisse.
Bon, écoutez, Blame Me, c'est par ça que ça commence, l'EP, donc.
Ouais.
Un peu de culpabilité.
Oh oui.
Il faut.
Y a de quoi.
been thinking about this future of ours, as if the present was already behind us. And here you are with your newborn eyes. We taught you manners since your heart started beating. Took both directions before you crossed the street. And still our world's only looking around. Not a star. So I get it if you blame me for just letting it happen. Blame me for what I could've given. Blame me for the fires that reignite. Blame me as we leave the earth get it if you blame me for just letting. Shuffle people like a deck of cards. You dream in color, but you see in black and white. And for that, you're right to blame me for just letting.
Blame Me, le premier titre qu'on retrouve sur l'album 3, le P3 de Pale Mail. Vous parlez souvent de la place que les hommes ont, que ce soit dans la rue, dans la vie en général. On sent que c'est un combat que vous menez, de se déconstruire le plus possible. Est-ce que vous vous sentez coupable d'être un homme ?
Je pense qu'il faudrait pas, parce qu'on n'a pas choisi ça. Donc c'est pas le but. Par contre, je me sens coupable de certains trucs du passé où j'ai minimisé certains témoignages, où j'ai dit ah, c'est pas grave, un pote qui me racontait un truc, et j'ai fait des blagues lourdes, et ça, ouais, ça je m'en veux, parce que ça je peux plus enlever, je peux que m'excuser et tout, mais coupable d'être un homme, non. Par contre, je me sens coupable de tellement de choses, de pas assez faire, de pas assez faire contre le réchauffement climatique, de pas assez faire par rapport à ce qui se passe à Gaza. J'essaie d'en parler, mais en fait, je me sens tellement inutile. Je me sens coupable de ça, en fait. Je me sens tellement inutile. C'est, autour de nous, il y a tout qui pète et on est là, pépère, en Suisse. Je suis un homme avec tous mes privilèges. J'ai un micro devant moi. Et en fait, il se passe quand même tout ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc où il y a quand même des amis à moi et ou de la famille qui peuvent se faire agresser, quoi. Des femmes qui se font agresser. Et ça me rend fou. Ça me rend fou que j'ai pas une seule des femmes avec qui j'ai relationné qui ne soit pas, qui n'ait pas subi des trucs. Donc, juste entre chez moi et la gare qui est à 5 minutes. Non, mais c'est une folie, en fait, les hommes, ce qu'on fait. Et du coup, je peux pas dire que je me sens coupable d'être un homme parce que j'ai pas choisi. Mais je me sens coupable pour nous collectivement. On a un devoir par contre de faire mieux maintenant, je trouve. Et ça passe par déjà se remettre en question.
C'est pas un morceau, en tout cas quand on l'écoute et qu'on écoute, enfin quand on l'écoute sans comprendre les paroles, c'est plutôt un morceau d'espoir, non ?
Vous dites Blame Me ? Ouais, je pense. Il en faut de l'espoir, hein. Ça je suis tout à fait d'accord. Mais dans les paroles, il est assez fataliste en fait. Je pense qu'il est musicalement, effectivement, avec ses envolées de violon et tout, ça donne l'espoir d'un monde meilleur. Mais en fait, moi, il n'y a pas d'issue. À la fin du troisième couplet, il n'y a pas d'issue. À la fin de, on est derrière des murs gazaouis à la fin du troisième couplet. Donc non, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, quoi. Donc, je vous avais dit que je mettais des trucs un peu, certains diront pessimistes. Moi, j'aime bien dire réaliste quand même dans ma musique.
Cynique.
Cynique peut-être, ouais. Et puis autocritique aussi. Mais non, ouais, Blame Me. Je pense que, par contre, je le trouve très beau ce morceau. Mais par contre, j'ai envie de pleurer quand je l'écoute. De tout ce qui va pas, quoi. J'ai juste envie de dire ça. Ça a pas la prétention de sauver quoi que ce soit. Hein. Ça faut bien. Je me mets pas plus aucun autre. Juste, j'ai besoin d'exprimer ça parce qu'il faut que ça sorte, c'est tout. Et puis, si ça résonne avec des gens, c'est que peut-être ils ressentent quelque chose de similaire.
Quand vous dites qu'il faut que ça sorte, comment c'est sorti? D'abord, un texte, une phrase, phrase du psy?
Il y en avait sûrement une là-dedans. Ouais. Là, il faudrait que je redigue le texte, je sais plus exactement. Mais, là, c'est sorti. Je crois que c'était avec, donc je suis parrain, j'ai pas d'enfant, mais je suis parrain de plusieurs enfants. Et un de ces enfants, en fait, je le regardais, puis je disais, mais pourquoi on fait encore des enfants? À quoi bon, vu le monde qu'on leur laisse? Et en fait, le Blame Me, c'était, je m'excusais auprès de l'enfant, en fait. Il y avait un peu un truc de, voilà le merdier qu'on te laisse, je suis désolé. Et puis à partir de là, en fait, ça a construit sur plein de sujets différents, quoi. Tout ce que j'ai cité juste avant. Et puis c'était sur ma guitare acoustique, guitare voix. Et puis il y a ce Blame Me, le premier truc qui tournait, c'est Blame Me, Blame Me. Et puis le reste est venu presque automatiquement. Puis j'ai ajouté les 1000 instruments derrière.
C'est vrai que, alors je parlais d'espoir, c'est vrai qu'il y a ces envolées, ces grands espaces et tout ça. Mais dans votre voix, il y a comme une espèce de cycle. Vous chantez toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on finit toujours un peu, sur un espèce de constat.
Oui, c'est vrai. Triste, quoi. J'y ai même pas pensé, mais c'est vrai que c'est un des rares morceaux où j'ai pas d'envolée de voix. En fait, ma voix, elle reste très posée. Voilà. C'est un peu, non, mais c'est vrai. Il y a un peu un truc de, c'est reparti pour un tour. Il y a rien qui change. Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais.
Donc on commence comme ça.
Ouais, je commence le fait comme ça.
Super.
Mieux vaut comme ça que le finir de cette manière, on pourrait dire.
Comment on mettrait la culpabilité en musique?
Waouh, avec des violons et des trompettes et des, mais pas la trompette qui fait. On est bien d'accord.
Pas celle de Dario Moreno.
Voilà, exactement. Tout l'amour que j'ai pour toi. Et puis avec un lapsil, cet instrument qu'on entend sur ce morceau, qui est une sorte de guitare à plat, très ouest américain, hein, comme ça. C'est compliqué à décrire, mais en gros, c'est très dur à jouer aussi.
Il faut un espèce de dé à coudre pour le jouer, non?
Je sais pas si c'est cet instrument-là. Je crois pas que c'est un dé à coudre, mais ouais, enfin, vous pensez au bottleneck, je pense. Mais oui, il faut des espèces, un instrument pour glisser, en fait, sur les cordes. C'est hyper dur d'obtenir les bons écarts de notes. Et c'est très américain, mais ça amène une mélancolie à n'importe quel morceau au monde. C'est utilisé même dans le rap, c'est utilisé dans tous les styles du monde. Et à chaque fois, ça nous amène un petit peu dans la désertique Amérique où il y a peu d'espoir quelque part, je sais pas. Il y a soit peu d'espoir, soit
Far West.
Soit ça, soit tout est à refaire. Et du coup, c'est bien. Mais dans les deux cas, ça prend, je trouve.
Ça, vous savez jouer cet instrument dont j'ai déjà oublié le nom.
Pas du tout. Le lap steel, pedal steel, steel guitare, il y a plusieurs variantes. Je ne sais jouer aucune.
Alors, qui le joue?
Olivier Huldry. Je crois que c'est la seule personne que je connais en Suisse qui maîtrise cet instrument. Le jour où il peut pas venir à un de mes concerts, je sais pas comment je fais, mais oui, c'est Olivier Huldry qui possède même un magasin de musique à Genève, voilà.
Et alors les trompettes et les violons, comment vous faites?
Alors ça...
Vous jouez pas non plus.
Non, exactement, je les joue pas moi, j'ai des intentions. Moi, je sais pas écrire de partition. Hein. Faut savoir que j'ai pas du tout fait d'études en musique, je ne sais pas lire des partitions ni en écrire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher un trompettiste qui peut être James Bendali ou Zachary Chic, comme c'était le cas sur cet album, une violoncelliste Fanny Balestro, et je leur dis voilà, vous venez chez moi, on boit un coup et je vous explique ce que je vois sur tel morceau. Je vous chante des trucs, je vous envoie une note vocale avec telle intention, je vous fais un fichier Word où je vous mets chaque chanson, j'aimerais ça sur le couplet, ça. Je leur dis quel instrument je veux, je leur dis je veux que ça fasse ta 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 ta, je leur dis je veux que ça soit un pizzicato, donc les cordes pincées, mais je vous dicte pas les notes en fait. Et du coup, vous faites par rapport à ce qui est déjà existant dans le morceau. Et eux, on fait des arrangements de fou. Et en fait, après, on fait du ping-pong pour arriver à la version finale, et youpi.
Ma chanson préférée de cet album, c'est Paperwork.
Je suis pas loin de penser pareil.
Elle commence par quoi? Qu'est-ce qu'on entend?
Mais je crois que c'est du lap steel, justement, dont je vous parlais. Ouais. Vous l'écoutez maintenant?
Ouais, je crois qu'on peut faire ça, parce que c'est bientôt la fin.
Ah non, ça, c'est un clavier. Et là, le lap steel. Ce truc qui glisse un peu. Mmh. Là, il arrive. Voilà, c'est de ça que je parlais. Je crois même que c'est un pedal steel, c'est-à-dire qu'il fait encore des variations avec les pieds pour changer les tons des cordes.
Le grand espace mélancolique.
C'est ça.
Et pour une chanson qui parle de paperasse.
Plus et compliqué que ça, voyons.
Et puis d'amour, quand même.
Oui.
Isn't this how love should be? Soft and slow intensity. She cries the sea. She said no need to take a chance. Everything ends up making sense. Go try.
D'amour pour Fantin Moreno, le nom derrière Pale Mail qui s'est tatoué son alliance, s'il vous plaît.
Je suis pas. Ouais, c'est plus compliqué que ça là aussi. C'était pas pour un mariage, je l'avais fait en plus, c'est ça qui est terrible. Je vous raconterai ça à une autre émission.
Paperwork donc. Où est-ce qu'on peut entendre Paperwork en live?
Le 7 juin, Glucose Festival du côté de Riyad, dans le canton de Fribourg, un super festival. Voilà, on joue à 23h30, mais c'est gratos donc venez.
Et puis on peut écouter votre album.
On peut écouter l'album sur toutes les plateformes, voilà, toutes les plateformes digitales. Sur Bandcamp, vous pouvez l'acheter, ça soutient un peu mieux les artistes.
C'est mieux.
Invite à le faire. Voilà,
faites
si
ça.
Voilà.
Merci Fantin.
Avec grand bonheur. Merci à vous, Edith, vraiment.
L'heure avec RTS Première.
Bah, je crois que normalement, il est censé sonner 20h. Je crois que c'est juste.